Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bonsoir Stéphane, qui réalise ce libre journal. Comme Stéphane vous l'a indiqué dans son annonce, vous pouvez nous envoyer des messages à l'adresse électronique suivante, courtoisie@rc.fr. Ce soir, cette émission aura pour thème un calcul du coût de l'immigration, une étude d'André Posokhoff. Alors pour cela, bien entendu, je reçois André Posokhoff. Bonsoir André Posokhoff.
Bonsoir Michel.
Et André Posokhoff, ce n'est pas la première fois que je vous reçois dans ce studio, sachant que même auparavant, nous nous sommes retrouvés côte à côte avec un autre patron d'émission.
Et nous nous étions retrouvés côte à côte lorsque la première fois que je suis arrivé au Globe de l'Horloge, je me souviens de vous. Vous étiez avec la coiffure ébouriffée, et il y avait Pertusio, il y avait Miloz, dont je vais reparler tout de suite.
Et oui, André Pertusio.
Et Pierre Miloz.
Pierre Miloz, tout à fait, que nous avons bien connu. Alors donc, ce soir, voici le thème. Et alors, par rapport à ce thème, je précise que la dernière fois que je vous ai reçu, je crois que c'était à la fin 2022, c'était pour votre précédent livre, Immigration, l'épreuve des chiffres en 2021 et Immigration, l'heure des comptes 2022. Et puis vous avez écrit d'autres livres, parce que vous portez un grand intérêt à l'histoire du XXe siècle. Hein. Vous, notamment, tout ce qui porte sur la période des années 40, de l'occupation et de la défaite. Vous avez écrit aussi un remarquable ouvrage sur la défaite. Alors, retour sur le désastre de 1940, responsabilité et prolongation, aux éditions Synthèse Nationale. Alors, par rapport au thème de ce soir, vous venez de publier un livre personnellement, comme il a été, il vient d'être publié, je ne l'avais pas, j'ai travaillé sur un document PDF, mais peu importe, de toute façon, c'était la même chose. Donc, vous allez nous indiquer la manière dont nous pouvons se procurer votre livre.
Mais écoutez, il est en cours. Moi-même, je n'en ai pas, puisque je l'ai commandé, il ne m'a pas encore été livré. Mais il suffit de faire comme sur Amazon, c'est d'aller sur Book Edition, de faire Posokhoff, P-O-S-O-K-H-O-W. Je ne l'ai pas encore fait. Hein, et possibilité de le commander.
Je l'ai fait, donc j'ai vu le site, donc vous pouvez commander le livre à nous. En fin d'émission, nous rappellerons ce titre, le titre de votre livre.
Alors, le titre, je voudrais compléter quelque chose, c'est sur l'immigration, mais l'immigration extra-européenne. C'est le gouffre financier de l'immigration extra-européenne en France.
Alors, nous allons donc, c'est le thème de cette émission. Alors, donc, vous allez nous présenter aujourd'hui, donc, c'est à partir de ce livre, qui est une nouvelle étude de votre part sur le coût de l'immigration en France et l'immigration, donc, d'origine extra-européenne. Alors, vous procédez à une analyse particulièrement détaillée des postes de recettes et des dépenses publiques, État, sécurité sociale, collectivité territoriale ayant un lien avec cette immigration. Et de manière synthétique, il s'agit d'une nomenclature à partir de laquelle vous évaluez les montants de recettes et de dépenses. Et dans l'ensemble de vos calculs, outre les coûts directs liés à telle ou telle ligne budgétaire, vous élargissez l'analyse, entre autres, aux questions et aux postes relatifs à l'ordre public ou à l'économie informelle. Enfin, vous vous penchez sur une analyse économique, notamment en termes de chômage, et même de formation du PIB en calculant l'apport de cette immigration au niveau des PIB. Et aux différents calculs, ça il faut le noter, sont associés tout un ensemble de références, principalement différentes publications sur lesquelles vous avez assis votre analyse. Tout ça pour vous dire qu'en fait c'est un document très riche et il y a aussi un élément sur lequel nous allons venir, qui me paraît très important, c'est l'aspect éducation sur lequel vous avez, une excellente analyse. Et nous verrons là aussi comment égrever nos budgets par rapport à une éducation qui a pris budgétairement une importance au-delà, si j'ose dire, de l'efficacité dont on peut attendre. Alors, bien sûr, et vous le verrez au cours de cette émission, les montants sont fort importants, hein. Et comme toujours, bon,
Pas toujours,
pas toujours,
pas
bon,
toujours,
mais enfin, nous
pas
verrons,
toujours.
enfin, dans certains domaines, et bien entendu, bon, bah, comme bon, tout chiffrage, tout calcul, sont contestables, mais du fait de l'étendue de la nomenclature retenue, et ça, je le précise, il ouvre à une discussion qui peut être riche. C'est-à-dire si, en effet, il y a tel montant et la somme est très importante, d'un autre côté, il y a une analyse, je dirais, aux lignes à ligne. Et c'est ça aussi qui est important. On peut contester le résultat de telle ou telle ligne, mais il y a une analyse que j'ai jamais vue par ailleurs, tout en n'étant pas un spécialiste, en effet, de l'immigration. Alors, tout ça pèse, bien entendu, sur les finances publiques. Pour autant, ce n'est pas le seul facteur qui explique le déclin économique de la France. Sa croissance atone, son endettement colossal, puisque nous l'avons évoqué dans ce libre journal lors d'une émission au mois de février dernier. Alors, il faut observer hein, que le travail que vous réalisez est de nature strictement financière et économique. Hein,
Comptable.
et comptable. Alors, disons comptable.
Je
Oui.
tiens et je vais expliquer pourquoi.
Oui, absolument, c'est de nature comptable. Alors, quand je dis financière économique, c'est-à-dire j'ai assez, mais c'est de nature comptable et il n'y a aucun jugement de valeur sur l'immigration dans votre livre. Donc, c'est pas.
Mais j'ai des jugements de valeur
Vous
sur
êtes.
certains cas négatifs. Et d'ailleurs, pour cela, je cite assez souvent Leschi, qui est à la tête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qui tient des propos extrêmement sévères sur l'immigration et la façon de le traiter. Mais le sujet, aujourd'hui, n'est pas politique.
Excellent, c'est ce que
Je
j'insiste.
dirais même qu'il n'est pas économique. Il est, et je vais expliquer pourquoi, comptable.
Il est comptable, ce que je veux dire par là. Donc, ce n'est pas un sujet qui. Un livre qui se pose des questions, je dirais presque qualitatives sur l'immigration. C'est un constat comptable. Et quand on dit financier, parce que le constat comptable, il a une conséquence financière. Alors, pour débuter la présentation de votre étude, particulièrement fouillée, je précise qu'elle est particulièrement fouillée, donc il faut s'accrocher, si j'ose dire, pour lire. Mais le problème, c'est ça répond à une volonté d'arriver à un résultat. Donc, je vous propose que vous nous définissiez d'abord vos objectifs, et puis ensuite, nous aborderons la méthode. Hein.
Alors,
Alors, André Posokhov, donc vous avez la parole.
mes objectifs sont doubles, ou plutôt ils partent de deux constats. Le premier constat, c'est que trop souvent, l'évaluation de ce que l'on appelle, et ce que je n'appelle pas personnellement, le coût, il y a des coûts dans l'immigration, mais le coût de l'immigration, les chiffres sont trop facilement, sont trop, de manière trop aisée, d'un niveau trop bas. Je me rappelle un voisin à une cérémonie à géopolitique profonde, nous avions discuté, nous avons lié conversation, il m'a parlé de la dette, et il m'a dit, il y a telle dépense, je lui ai dit aussi, il y a l'immigration, il m'a dit, l'immigration, ce n'est jamais que 40 ou 50 milliards, ce n'est rien. Or,
C'est déjà
oui, mais enfin, c'était le
beaucoup, hein.
sentiment
Oui.
que je ressentais. Et je pense que la charge réelle sur la France est beaucoup plus élevée. Alors, des efforts ont été faits. Je rappelle ce qu'avait fait le professeur Bichot, qui en 2016 avait fait quelque chose sur le coût de tout ce qui était la délinquance. Il arrivait quand même à 150 milliards. Donc c'est déjà un chiffre élevé, mais que l'on a bien oublié parce que lui-même est oublié. Et
Oui,
puis
ben Jacques Bichot, qui était
très
quelqu'un de.
récemment, à l'Observatoire de l'immigration et de la
Oui,
démographie,
Nicolas Pouvremonti, qui était
Nicolas
en.
Pouvremonti a fait un calcul de coût économique massif de l'immigration à hauteur de 100 milliards, 3,4%, à hauteur la même chose que le pays, 3,4% du PIB. Il y a donc là quelque chose de très important parce que déjà, on pousse à des sommes bien supérieures à celles que j'ai critiquées. Par celles que je critique, c'est exactement le même niveau toujours que celui de Pierre Minoz. Or, Pierre Minoz a travaillé dans les années 90, nous sommes en 2026, et depuis, il y a eu un raz-de-marée d'immigration. Donc, les chiffres doivent être forcément plus élevés.
Disons que l'immigration a en fait, en effet, cette, je dirais, en nombre, s'est accrue de manière considérable, puisque...
Et voilà pourquoi, déjà, on constate, et on le constate dans de nombreux articles, que certains, comme Pouvreau-Monti, arrivent à des chiffres nettement plus élevés que voilà, ceux que j'ai cités.
Pierre Meillioz, comme vous le citez dans votre livre, en valeur actualisée, par rapport à ces chiffres, c'est 61 milliards.
Voilà.
Ce qui déjà, ce sont des sommes conséquentes. Hein. Faut pas... C'est grosso modo la charge de la dette.
Hein. Ouais, ou...
C'est pas négligeable. Hein.
Ce n'est pas négligeable. Oui, oui, c'est la charge de la dette. C'est aussi le budget des armées, etc.
Oui.
Mais c'est beaucoup plus élevé lorsque vous avez... le calcul de Bichot, du professeur Bichot, et le calcul de Pouvreau-Monti. Alors, ça, ce que je voudrais, c'est y aller. Alors, ce que je critique aussi, c'est la notion de coût de l'immigration, le coût de l'immigration, parce qu'on ne sait jamais très bien. Il n'y a pas de définition claire, et elle dépend de chaque auteur. Nous avons, parfois, ça, c'est le PIB, c'est le produit intérieur brut, d'autres fois, c'est les finances publiques. Parfois, on pense que, par exemple, certaines dépenses, comme la politique de la ville, est un investissement. Le coût de l'immigration, ce terme de coût de l'immigration, personnellement, je le trouve extrêmement ambigu. Je le trouve faux d'une certaine façon et trop divers selon les auteurs. C'est pour ça que... Alors, par exemple, une autre notion, celle du surcoût. Alors, on dit l'AME, l'aide militaire...
L'aide médicale d'État,
excusez-moi, est un surcoût. Non, c'est un coût.
Oui, c'est un coût. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est un coût.
C'est un coût. C'est un coût. La notion de surcoût, pour moi, est une... comment dirais-je, quelque chose tout à fait accessoire et sur laquelle on ne peut pas fonder une étude. C'est pour ça que j'ai choisi de faire quelque chose de purement comptable. C'est-à-dire, et c'est ce qu'avait fait Pierre Meillioz au début, prendre toutes les recettes que procurent les immigrés originaires des pays tiers, c'est-à-dire des pays non européens.
Alors, peut-être, vous dites très bien originaires des pays tiers. Dans votre livre, excusez-moi de vous interrompre, déjà, vous faites un calcul de la population immigrée. Hein. Il faut vous définissez finalement la population en nombre hein, et en type que vous prenez en
Alors,
compte.
Je vais y arriver.
Oui, c'est ça.
Je vais y arriver. Donc, ce que je voulais faire, c'est quelque chose de comptable. C'est-à-dire prendre les recettes et en face mettre les dépenses à caractère social, par exemple... tout ce qui est allocation familiale, tout ce qui est chômage, etc. Et arriver à un résultat de comparaison entre les recettes et ce type de dépenses. Et une fois un résultat arrêté, hein, y mettre tout ce qui n'est pas social, qui s'appelle par exemple l'accueil. L'accueil des immigrés. Par exemple, l'hébergement.
Oui, c'est un coût.
Et c'est un coût qui est souvent oublié. Par exemple,
c'est presque le premier des coûts, enfin, pas en importance numérique, mais en...
Par exemple, les étrangers qui ont un titre de séjour pour maladie, et ça arrive à des sommes considérables. Et puis, il y a tout ce qui est dérive et délinquance, dont certains coûts sont très importants, nous y reviendrons. Il y a ce que j'appelle la face noire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait qu'une face noire pour les immigrés, certainement pas, mais il y a une face noire comme chacun a une face noire, comme tous les pays une face noire ou les sociétés. Et c'est là qu'il y a, nous en parlerons de la fraude.
L'économie informelle.
Et puis nous parlerons de... et alors à chaque fois, il y a, n'est-ce pas, alors au départ il y a les recettes, et il y a donc toutes ces dépenses. C'est là que je rejoins ce que vous disiez, c'est qu'il y a fallu faire... Une analyse démographique. Et la première, c'était d'évaluer le nombre d'évaluer la population française. Hein. Donc, je pars sur une population française de 68 millions de personnes. Il y a eu un excellent article de Robin dans le Figaro, mais qui est ancien, qui dit qu'en fait, on ne sait pas très bien, parce qu'il y a beaucoup de Français qui vivent à l'étranger. Bon. Alors,
Oui, puis comme il n'y a plus de recensement national, donc ça ne facilite pas les choses, hein.
Alors, j'ai d'abord fait un dénombrement de la présence immigrée étrangère et naturalisée en France en 2022 pour un total de 16,8 millions. Donc, il y a 16,8 millions, y compris les Européens. Donc, il y a les non-Européens et les Européens. Pour ce qui est des non-Européens, il y a les immigrés directs, il y a les descendants d'immigrés, c'est-à-dire ce qu'on appelle la deuxième génération, les enfants des immigrés
Donc, en
directs.
fait, c'est la première génération née en France.
En principe, oui.
Oui, non, c'est important, hein, parce que c'est-à-dire que vous ne, bon, la notion dans votre calcul, vous ne prenez pas en compte la notion de deuxième, troisième génération, ce qui est, donc, vous prenez les immigrés arrivés en France, qui peuvent avoir été naturalisés d'ailleurs, et puis la deuxième
Tout à fait.
génération, c'est-à-dire
Leurs enfants.
leurs enfants, tout simplement. Bon,
Et qui naissent français.
et qui naissent français, oui. Donc, en fait, c'est vous prenez la. Je dirais la définition la plus rigoureuse qui soit, parce que troisième, quatrième génération, on peut dire qu'il y a, pourrait y avoir un effet de
Alors,
dilution.
non, je ne parlerai pas de la troisième génération. D'abord parce que, elle est très mélangée avec les natifs. Deuxièmement,
Absolument.
parce que c'est très compliqué. Et la troisième chose, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la plus grande partie des troisièmes générations, à l'état pur, sont plutôt des Européens. Parce que là, il y a un problème de date. L'immigration européenne, c'est-à-dire les Italiens, les Espagnols et les Portugais, surtout les Portugais, c'est une immigration ancienne. Donc beaucoup, beaucoup sont à l'âge de la retraite. Et les immigrés non européens sont surtout les Africains et les Maghrébins. C'est une immigration qui a pu être ancienne, mais qui, d'une manière générale, à aujourd'hui, est beaucoup plus présente. Donc il y a moins
Oui, de
de chiffre de retraite. On est étonné du chiffre de retraite des immigrés européens. Et ça contre un argument souvent sorti en disant ils nous paieront nos retraites. Il faudra aussi payer les leurs.
Oui.
Il faudra aussi payer les leurs, puisqu'il reste.
Non, mais
Que
vous avez.
nous ayons besoin d'immigrés pour faire des travaux, et je pense qu'on en a besoin, et le problème, c'est le regroupement familial, c'est le fait qu'ils ont des familles, qu'ils ont des enfants, et que c'est cela qui charge absolument tout le système. Il n'est pas nié que l'on ait besoin des immigrés. Il y a toute une partie du chapitre dans le, dans, 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 dans le, dans
Oui, que
la,
vous développez très bien.
sur, sur le chômage. On en a besoin, il y a. Indiscutablement, mais ils n'ont pas besoin de rester pendant très longtemps. Sinon, ils se substituent, et c'est par exemple le cas des médecins. Mais là, il faut revenir donc aux chiffres, et le
Alors, on va
chiffre.
revenir aux
Alors,
chiffres,
le
donc.
chiffre, pour ce qui est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les extra-européens, c'est immigrés directs, descendants d'immigrés, et les étrangers nés en France, qui posent souvent un problème. Parce que je les partage entre les Européens et les non-Européens, ce sont souvent des jeunes enfants qui ne sont pas, qui sont appelés à être naturalisés, mais qui n'ont pas encore l'âge d'être naturalisés. Bon. Pour ce qui est, donc mon annexe numéro 2, pour ce qui est des extra-Européens, nous avons 9,9 de réguliers, hein, immigrés, descendants d'immigrés et ces étrangers nés en France. Hein. Ça ne comprend pas les Français nés à l'étranger. Ceux-là sont complètement en dehors des calculs. Mais j'y ajoute les étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire, d'après mes calculs, on pourra y revenir si vous voulez, 1,4 millions.
Ça correspond, si vous voulez, par rapport aux différents chiffres qui sont avancés, sachant que officiellement, on vous dit qu'on est incapable de. Juridiquement, on est probablement incapable, mais dans la pratique, bon, il y a des évaluations, mais ça ne me semble pas aberrant. Quand on pense qu'il y a 500 000 étrangers qui rentrent en France par an, hein, parce que là, quand vous dites 1,4 million, ce ne sont pas des flux, c'est un stock, si j'ose dire. Enfin,
C'est le stock.
c'est
Il y
le
a un
stock.
flux.
Pardon?
Il y a un flux.
Oui, donc en
Et le
fait,
flux, on le connaît mal.
oui.
Alors, le flux des clandestins, on le connaît mal. Il faut savoir que au ministère de l'Intérieur, ils ont des états annuels de calcul extrêmement bien faits. Il y a l'un d'entre eux qui montre chaque année les gens que l'on interpelle parce qu'ils sont clandestins. Et la dernière année, c'était 147 000. Mais vous avez tous les touristes qui ont un visa de tourisme, et comme on ne contrôle pas qu'ils sortent, comme dans certains
Oui.
pays, Il y en a, ils peuvent rester s'ils veulent.
Non, mais vous avez raison.
Il en va de même des étudiants qui, normalement, doivent rentrer chez eux. Donc, en fait, on ne maîtrise pas ces flux.
On reviendra d'ailleurs sur le nombre d'étudiants. On y reviendra tout à l'heure.
Moi, je suis arrivé à 1,4 million. Le seul qui ait fait un travail extrêmement précis vers en 2012-2014 dans les contribuables associés, c'est Jean-Paul Gourievitch. Et depuis, toutes les annonces, que ce soit celle de Darmanin ou de tout autre de ministre de l'Intérieur, il se n'est jamais justifié par quoi que ce soit. Ils disent entre 600 000 et 900 000, mais ils les sortent d'où ? On ne sait pas. Je me suis inspiré d'un rapport, j'ai fait cet article en 2019, je l'ai mis dans le livre, et ça a été repris par Stefanini. Si vous voulez, lorsque le rapport a été fait, un rapport a été fait sur le 93, c'est-à-dire sur la Seine-Saint-Denis, lors des débats qui ont eu lieu, l'idée était de multiplier, pour trouver le nombre de clandestins, c'était de multiplier le nombre de personnes qui touchaient l'AME par 3, plus un coefficient d'incertitude de 0,3. Et c'est ce que j'ai appliqué. Et c'est à cela que j'arrive. Simplement, avec le nombre de personnes qui touchent aujourd'hui, et que ça augmente tout le temps, on en est à 450 000. On arrive à des chiffres. Alors, il faut aussi tenir compte de ce qu'il y a à Mayotte. À Mayotte, on ne contrôle plus rien. On pense qu'il y a au moins 100 000
clandestins. Oui, parce que vous avez raison.
Et en Guyane aussi, parce qu'en Guyane, la Guyane est très courtisée, il y a de l'or, il y a des gens qui arrivent, c'est pas très contrôlé, il n'y a pas les moyens, c'est la jungle.
C'est pas simplement, vous avez tout à fait raison, c'est pas simplement le chiffre de la métropole, c'est les chiffres des collectivités d'outre-mer, et tout le monde sait qu'à Mayotte, d'ailleurs les Morais sont les premiers à s'en plaindre, les Comoriens arrivent en masse par rapport à l'importance de l'île.
Et vous avez autre chose, et je l'avais vu, on me l'avait dit en Guyane, vous avez une femme qui est enceinte, elle arrive au 9e mois, elle prend le bateau, en Guyane elle traverse le Moroni, l'enfant naît, il est français. C'est la même chose à Mayotte.
Oui, tout à fait.
Et c'est comme cela que se développe toute une population qui pèse de plus en plus, qui fait que les chiffres sont de plus en plus élevés.
Alors, donc, voilà. Alors, vous allez
alors,
nous
j'arrive
rappeler les
à,
chiffres. Hein, c'est ça,
j'arrive, pour... donc, pour ce qui est des immigrés, de l'immigration ex-européenne, 9,9 plus 1,4, 9,9 millions plus 1,4 million, ça fait 10,9, ça fait 11,3. Et le reste, c'est les immigrés européens. C'est là-dessus que j'ai travaillé. Alors, avec parfois des variations, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est alors j'ai travaillé sur l'essentiel sur les immigrés et les étrangers pour 2022 avec un très beau graphique que vous pouvez voir ici qui indique bien que les immigrés naturalisés français sont 2,5 millions et que les immigrés de nationalité étrangère sont de 4,5 millions. Donc il y a pour les immigrés, pas pour les descendants d'immigrés, mais pour simplement les immigrés, vous avez un immigré naturalisé français pour ceux qui sont étrangers. Ça, c'est intéressant. Il y a un rapport de un tiers, deux tiers, etc. Et puis, vous avez également une autre documentation extrêmement intéressante qui vous donne, alors ça, je tiens à le dire, qui vous donne, alors je vais essayer de retrouver excusez-moi.
Alors, je précise en effet que tout au long de votre texte, chaque élément avancé, je dirais, est justifié. Alors, oui. Vous le justifiez. Donc, c'est-à-dire que vous ne sortez pas un chiffre, alors, vous le précisez.
Vous avez l'INSEE, dont on peut dire parfois du mal, mais aussi il faut en dire du bien.
Ah, mais moi, je veux dire, ce que fait l'INSEE fait un travail tout à fait remarquable.
Oui, simplement, ce que ne fait pas l'INSEE, et je reviendrai là-dessus, Il manque des choses. Il manque des choses importantes, par exemple, le coût de l'immigration. Elle ne s'est jamais lancée là-dedans.
Oui, non, mais ça,
Elle ne
c'est...
fait, elle n'a jamais fait, le décompte des doubles nationalités ou des triples nationalités. C'est pourtant fondamental. Essayer de savoir combien il y a de gens du voyage ou de gitans en France. Moi, j'ai essayé à partir de l'INSEE, j'y suis pas arrivé, je crois que j'y étais pas arrivé. Et il y a beaucoup d'autres cas comme ça. J'en ai quelques-uns, d'ailleurs. Bon. Alors, là, ils donnent... Vous savez que l'on réclame comment ça s'appelle, les statistiques ethniques. À quoi servent les statistiques ethniques? Il y a des Français qui sont noirs, c'est-à-dire qui sont de couleur très accentuée, qui sont noirs. Par exemple, les Antillais, les
Oui,
Guyanais,
c'est les Français.
et les Polynésiens.
Oui, c'est les Français purs.
Voilà.
Oui, non, mais vous avez
Mais
raison.
par contre, vous avez ce que vous donne l'INSEE, c'est les effectifs,
Oui. Alors, quand j'ai
clairement.
dit c'est les Français purs, c'est-à-dire c'est des Français, qu'on ne se trompe pas sur mon propos, c'est-à-dire que ce sont des gens d'ascendance française, donc qui, quelle que soit leur couleur de peau, ils sont.
Oui, absolument, oui,
Ce
absolument.
sont des Français de souche, d'une certaine manière. Oui,
Absolument,
absolument.
absolument, absolument. C'est pour ça que les statistiques ethniques poseraient un problème. Alors que l'INSEE vous donne l'origine géographique de tous les immigrés et des descendants d'immigrés. Alors, j'ai par exemple sous les yeux le nombre d'immigrés en 2022 pour l'Afrique, avec la possibilité de faire ça par pays. 3 200 000. De l'Asie, 900 000. De l'Amérique, 420 000, pour un total de 6 900 000 avec l'Europe. Et la même chose pour les descendants d'immigrés. Pour moi, c'est précieux et c'est grâce à l'INSEE d'avoir que l'on a ces éléments-là, parce qu'après, vous pouvez travailler avec. Et ça, de ce côté-là, l'INSEE apporte un plus. Ce que je voudrais dire concernant donc la démographie, c'est que ces éléments chiffrés m'ont permis de faire des annexes des annexes importantes pour le travail, dont je voudrais vous parler. Il y a l'annexe numéro 3. L'annexe numéro 3, alors attendez que je me remette, j'aimerais y arriver. L'annexe numéro 3, c'est la structure de la population française dans sa totalité et de celle des immigrés et descendants d'immigrés originaires des pays tiers et des pays européens, par âge, par structure. Donc, on sait ceux qui ont plus de 65 ans, on sait ceux qui ont moins de 15 ans. Pour travailler, c'est extrêmement important. De plus, on a immigrés extra-européens, descendants d'immigrés extra-européens, les Européens, et on a les noms d'immigrés et la population totale. L'annexe numéro 4, qui est la plus importante, c'est celle de l'emploi et du chômage. J'ai beaucoup travaillé dessus. Et tableau de répartition de la population en âge de travailler. La population en âge de travailler elle-même se trouve dans l'annexe numéro 3, mais elle donne la population active. Et la population active comprend les gens qui travaillent, enfin la population qui travaille et les chômeurs. Donc je sais combien il y a de chômeurs immigrés, descendants d'immigrés et français, plus les inactifs, c'est-à-dire ceux qui seront en âge de travailler mais qui ne travaillent pas, pour une raison ou une autre, souvent l'âge.
Donc là, vous nous donnez, parce que notre avance, donc vous avez établi une situation quantitative hein, de la population qui fait l'objet de votre étude, c'est-à-dire que les immigrés, venus d'un pays étranger hors Europe sur le sol français, et leurs descendants, première
Voilà.
génération. Voilà.
Enfin, ce que j'appelle alors, il y a une ambiguïté parce que certains appellent les enfants d'immigrés la première génération et d'autres la deuxième génération. Il est plus clair de dire il y a les immigrés et la
Et la
deuxième
première
génération.
génération, donc, qui sont des Français.
Ce sont des Français.
Sont des Français. Hein. C'est-à-dire que là,
Mais ils font partie de l'immigration aussi.
Oui, ils font partie de l'immigration.
Les immigrés naturalisés font évidemment partie de l'immigration, mais j'ai fait le choix que la deuxième génération fasse partie de mes calculs d'immigration. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'on peut le discuter, on peut dire ils sont français,
Ce
etc.
qui est vrai
Mais parce
d'ailleurs.
que, oui, c'est vrai, mais parce que c'est une. D'abord, L'INSEE elle-même fait donne les informations sur les descendants d'immigrés comme je le fais. Donc, si elle le fait, pourquoi je ne le ferais pas? La deuxième chose, c'est que les descendants d'immigrés, la deuxième génération, pas tous évidemment, posent souvent des problèmes d'abord de délinquance, de positionnement par rapport à la civilisation, et deuxièmement, poser problème par rapport au travail, par rapport au chômage, par rapport à l'activité économique.
Mais nous, d'ailleurs, nous,
leurs ratios sont notoirement pas bons. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on retrouve dans l'estimation de
Nicolas Pauvremonti. Hein.
Voilà.
Donc ça, je crois que là, on est clair. Donc, en fait, vous avez deux générations, celles venues en France, donc immigrées, et puis leurs descendants directs.
Voilà. C'est donc là-dessus que j'ai travaillé. Donc, je ne reviens pas sur la deuxième génération. Je crois que nous en avons parlé, ni de la troisième.
Oui, tout à fait.
Ni de la troisième.
Je pense que maintenant, c'est clair. C'est-à-dire que l'échantillon de population sur lequel vous avez opéré.
Voilà.
À partir de ça, en effet, vous avez suivi une méthode extrêmement intéressante. D'abord, voir les recettes d'un point de vue fiscal, les recettes que ces personnes immigrées ou issues de la migration, première génération, apportent à l'État, à la sécurité sociale, voire aux collectivités territoriales. Et puis, au regard de ça, vous regardez quelles sont les dépenses. Hein. Donc, vous faites une analyse très fine. Alors, en ce qui concerne les recettes, il y a les gros postes et les postes moins importants. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que dans votre étude, hein, vous faites la liste de tous les postes qui est budgétaires qui ont un lien avec l'immigration, même s'il s'avère que le chiffre auquel vous aboutissez est minime.
Mais, oui, absolument.
Mais vous faites vraiment, c'est ça tout l'intérêt de votre travail. Entre autres, c'est une nomenclature comptable, je dirais, extrêmement fine.
Alors, par exemple, pour les impôts, j'ai essayé de les prendre tous qui pouvaient intéresser les immigrés extra-européens, aussi bien les directs, ceux qui sont directs, que ceux de la deuxième génération. Et je prends l'exemple, par exemple, de l'impôt sur le revenu. J'ai essayé de faire un calcul sur l'impôt sur le revenu de ce que payent ces immigrés. Je suis parti des données du ministère des Finances et j'ai appliqué à ces données les chiffres les nombres d'immigrés directs et des descendants d'immigrés de façon à arriver à un chiffre qui soit celui de l'impôt sur, par exemple, l'impôt sur le revenu.
Oui, alors ça, c'est parce que parmi les grandes contributions, vous avez en effet l'impôt sur les revenus.
Alors, il y a aussi l'impôt sur les sociétés. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'impôt sur les sociétés, j'ai essayé, je n'ai pas tenu compte des grandes sociétés, mais il faut tenir compte que beaucoup d'immigrés extra-européens ont des petites entreprises, ce qu'on appelle des ETI ou des PME, que certaines sont soumises à l'impôt sur les sociétés et que d'autres sont soumises à l'impôt sur le revenu. Donc c'est sur cette base-là et sur cette base de la DGFiP, c'est-à-dire la Direction Générale des Finances Publiques et des Statistiques, impôt sur le bénéfice des entreprises, il y a des tableaux extrêmement intéressants sur lesquels je me suis fondé.
Alors,
et pour arriver à un résultat final concernant l'impôt sur les sociétés.
Très étudié, vous faites les différentes, en effet, les différents postes budgétaires. L'un des plus importants, c'est quand même la participation, l'impôt sur les revenus, sachant, comme vous dites très bien, qu'en France, 45% des foyers fiscaux payent l'impôt.
J'en ai tenu compte.
Payent l'impôt sur les revenus. Et tout à fait intéressant, c'est-à-dire vous calculez la contribution, vous évaluez la contribution de la population immigrée à cet impôt sur les revenus. Et d'après les chiffres, ça correspondrait à un peu plus de 9% le total auquel vous arrivez pour la contribution des immigrés.
Vous êtes sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés ?
L'impôt sur le revenu. Hein, parce que l'impôt sur le revenu, c'est quand même plus important comme masse que l'impôt sur les sociétés. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de comparer la part contributive de cette population à un type d'impôt, par exemple, et la part qu'il représente dans la population. Mmh. Et j'avais calculé, d'après vos chiffres, que le pourcentage était environ de 9% en termes de contribution à l'impôt sur le revenu, tandis que l'échantillon de population est près de 14%. Oui. Je crois que c'est oui. intéressant d'avoir, vous voyez, vous avez le chiffre en valeur absolue hein, et les chiffres en proportion. Ce qui d'ailleurs est tout à fait explicable, puisque immigrés venus en France et première génération ont en moyenne, et vous y revenez après dans votre étude, des revenus plus faibles que la moyenne de la population. Donc, oui. il est normal, mathématiquement, que leur participation contributive à l'impôt sur le revenu soit plus faible que la moyenne de la population.
Elle est plus faible. Il y a une réfaction. Hein. J'ai fait deux annexes sur la réfaction, sur le niveau de vie et sur les salaires. Elle est plus faible, mais elle est loin d'être négligeable. Si vous voulez... il n'y a pas que. Alors, je tiens à dire que sur l'impôt sur les sociétés, j'ai tenu compte donc de ce qui peut être, de ce que peuvent être les sociétés qui appartiennent ou qui sont gérées par des immigrés ex-européens. Je dis pas déjà. Et elles apportent des sommes intéressantes.
Oui, c'est important à noter parce que ça veut dire que dans cette population. Il y a une capacité d'entreprise. Il participe à l'entrepreneuriat. Et je crois que c'est intéressant à noter, vous en avez fait, l'impôt sur les bénéfices des entreprises.
Alors, il y a aussi la TVA.
Alors, l'impôt sur les bénéfices des entreprises, je précise, vous arrivez à 2,88 milliards. Hein. Ce qui n'est pas une somme négligeable.
Hein. Non, absolument.
Alors, la TVA, si c'est... Parce qu'on ne va pas balayer, bien entendu, tous les postes parce que nous n'avons pas le temps. On essaye de balayer les postes les plus importants. Et il est intéressant de souligner l'importance de l'impôt sur les sociétés parce que ça veut dire qu'il y a une activité entrepreneuriale. Alors, la TVA, c'est l'impôt sur la consommation. Ah, donc, tout le monde paye à partir du moment où il est consommateur. Tout le monde est consommateur.
Alors, vous avez effectivement donc les immigrés... sont des consommateurs et ils font partie de la vie économique. Hein, on en tient compte Ils font partie du montant global des impôts payés par les immigrés extra-européens. C'est le cas également de divers impôts moins connus, l'enregistrement, le timbre, les autres impôts et beaucoup d'impôts locaux.
Alors, je précise sur la TVA parce que la TVA... En termes de volume, c'est l'impôt le plus important en matière de recettes fiscales.
Hein. Tout à fait.
Et pour l'année 2022, vous nous donnez un chiffre donc, de 183 milliards d'euros de TVA. Et sur ces 183 milliards d'euros, avec, je dirais, des coefficients rectificatifs, si j'ose dire, merci beaucoup. La part est de 22,38 millions. Oui. 22 milliards, 38. Hein.
Alors, donc, il y a aussi les impôts locaux. Et donc, c'est la part des immigrés. Concernant les impôts, le montant des impôts payés par les immigrés extra-européens, hein, ça fait 49 milliards. Voilà.
Alors, je vous prie de m'excuser. Là, j'ai un message d'auditeur alors, qui nous dit « Merci beaucoup, émission très intéressante, concrètement l'immigration massive. » Alors, et c'est normal, nous l'avons dit, nous ne distinguons pas, et vous ne distinguez pas dans l'immigration les origines. En ce sens, c'est une immigration extra-européenne. Mais les aires de civilisation dont ils viennent,
non.
Vous nous dites... D'ailleurs, parce que par rapport à votre démarche, ça n'a pas d'intérêt.
Ça n'a pas d'intérêt.
Ça n'a pas d'intérêt. Alors, je remercie l'auditeur de cette question, mais nous lui répondons, c'est-à-dire que le fait qu'il soit de tel endroit, ça n'a pas d'intérêt, ça n'apporte rien, une démonstration qui est une démonstration
comptable. La question est intéressante parce qu'il est intéressant de consulter l'INSEE, car il est intéressant de savoir combien il y a d'Africains subsahariens, combien il y a d'Asiatiques et combien il y a de Maghrébins. À titre purement à titre anecdotique, les Turcs sont considérés comme des Asiatiques. En d'autres endroits, comme par exemple pour l'Ofpra, c'est-à-dire l'asile, ils les considèrent comme des Européens. En réalité, j'assimile les Turcs aux Maghrébins. Donc, vous avez ces...
Oui, c'est l'ère
musulmane,
méditerranéenne. Ouais.
Mais vous avez des données qui ne sont pas uniquement celles que j'ai, mais qui sont aussi pour l'économie, pour l'activité, qui distinguent selon les régions et qui peuvent distinguer selon les pays. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'INSEE qui vont dans le sens de la question de l'auditeur. Mais ça ne me concerne
pas.
Oui,
tout à fait. Je pense que là, il faut... Ça ne, par rapport à votre démonstration, d'ailleurs, ça serait extrêmement difficile d'ailleurs d'imputer comptablement...
Ce sera un travail énorme.
Ce sera un travail énorme qui ne présenterait pas un compte intérêt. Donc, on précise bien, vous prenez une population dans son ensemble sur le critère extra-européen. Voilà. Hmm. Et le critère d'ascendance, c'est immigré et première génération. Alors, pour avancer...
Je dois dire néanmoins, et ça va un peu à l'inverse de ce que nous allons dire, que pour des calculs d'impôts, de cotisations, j'ai parfois utilisé la catégorie africaine subsaharienne, la catégorie maghrébine, parfois. Mais essentiellement, ce qui compte, c'est l'origine continentale.
Alors... Là, dans deux minutes, on va passer le bobineau. Et donc, vous recensez toutes les dépenses. Hein, et ce qui est important...
Vous oubliez les cotisations.
Oui, alors, vous recensez toutes les recettes, je me suis trompé. Donc, il y a les recettes purement fiscales. Hein, oui. Donc, il y a l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, la TVA. Et puis, il y a d'autres lignes, mais on ne va pas entrer dans le détail parce que nous n'avons pas le temps... Et votre livre est très riche. Et puis, en effet, il y a les contributions sociales qui sont en France
Alors,
particulièrement
élevées. Les contributions sociales, il y a plusieurs points. Hein. Tout d'abord, la première et la plus importante, c'est la CSG.
Oui.
La CSG remplace pour les salariés les cotisations, sauf pour la retraite. Autrement dit, les salariés ne payent pas de cotisations sociales exceptionnelles, sauf pour la retraite. La retraite, ils en payent 40% et le patron en paye 60%. C'est remplacé par la CSG. En revanche, et c'est important, pour les indépendants, il faut calculer les cotisations sociales. Donc on ne les calcule pas sur les salariés, pour ce qui est de la famille, pour ce qui est du chômage, essentiellement. Et la CSG les remplace. Il faut en être conscient. Par contre, pour ce qui est des indépendants, il faut calculer les cotisations. Et pour bien montrer, et c'est important de les calculer, pour bien montrer... que leur activité économique apporte quelque chose à l'économie française. Car le chiffre cumulé des cotisations des indépendants est loin d'être négligeable.
Alors, tous ces calculs-là sont, je dirais, répertoriés. Il y a beaucoup de chiffres, hein. Faut reconnaître que nous n'avons pas le temps développer ici. Mais tous ces chiffres... sont étudiés ligne par ligne. Alors peut-être, nous allons passer le bobineau, Stéphane, oui. Avant de poursuivre notre émission. Et justement, juste après le bobineau, vous nous rappellerez le titre de votre livre, où on peut se le procurer.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci Stéphane. Alors, comme nous parlons beaucoup de chiffres, et ce soir nous n'aurons certainement pas le temps, et puis ça serait très rébarbatif d'évoquer tous les chiffres, vous allez nous rappeler le titre de votre livre et les moyens, et le moyen pour se le procurer.
Alors, c'est le gouffre, financier de l'immigration extra-européenne. Voilà. Et ça, ça s'obtient auprès de... De Book Edition en faisant Posokov. Alors, je dois avouer que moi-même, je ne l'ai pas encore fait parce qu'on est en train de le sortir.
Hein. Oui, j'ai vu le site.
Pris ce rendez-vous, Michel, nous n'étions pas sûrs du tout qu'il y aurait que le bouquin serait sorti. Donc, nous sommes à la coupure, à la césure.
Donc c'est vraiment. Voilà. Nos auditeurs ont le privilège.
Alors, il y a un lien que je n'ai pas ici, mais il y a un lien que je vous communiquerai. Et,
de toute façon, c'est assez simple. Vous allez en effet sur Google ou un autre moteur de recherche, je ne veux pas faire de publicité, vous tapez André Posokov, Book Edition, et vous tombez sur le site. Hein. Donc, alors là, j'ai. Juste un message d'auditeur. La fraude fiscale est d'environ 70 milliards en France. Je n'ai pas d'idée. Une grande partie de cette fraude, ah oui, d'accord, concerne la TVA, mais la fraude sociale est bien plus importante, 110 milliards. Alors, tous ces éléments-là de fraude, vous en parlez dans votre livre. Je lirai encore nos messages tout à l'heure. Poursuivons. Alors, maintenant,
pour finir avec les contributions hein, des immigrés. Donc, les impôts, ça fait 48 milliards et les contributions, ça fait 30 milliards, surtout c'est la CSG et surtout les indépendants, plus la retraite. Donc, passons là-dessus, ça fait un total de 78 milliards, 79 milliards.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos éditeurs peuvent, par rapport, toujours calculer des pourcentages hein, par rapport à la ligne considérée ou par rapport à l'ensemble des dépenses et rapporter ces pourcentages eu égard au pourcentage de la population visée par rapport à la population totale, ce qui permet de donner des ordres de grandeur. Hein.
Alors, après, il y a des dépenses de caractère social. Il y en a pas mal et elles sont importantes. Je voudrais dire une chose, c'est que je ne me suis pas contenté d'utiliser les chiffres comme nous en avons parlé, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire d'utiliser les annexes 3, 4 et 5, qui sont les nombres, par exemple, les nombres de mineurs pour ce qui est pour les contributions de la famille, etc.
Alors oui, parce que vous parlez d'annexes pour nos auditeurs. Vous dans le livre, le livre se termine par toute une série d'annexes.
Alors, hein. Il y en a 13 ou 14, hein, et il y a
effectivement. Il y en a 14.
Dont une très intéressante dont je voudrais parler, c'est celle qui porte sur le discours de Monsieur Brochot, de Pierre Brochot.
On en reparlera.
Alors, on ne va pas aller très loin dans le détail des dépenses. La liste, c'est famille, chômage, logement, éducation, l'exclusion sociale, les retraites et la santé.
Alors, parlons, commençant par la famille, par exemple les allocations familiales.
Alors,
vous donnez un chiffre pour 2022 les allocations familiales versées en 2022 s'élèvent à 51,4 milliards d'euros.
Oui.
Et vous indiquez que immigrés plus génération suivante percevraient 16,85 milliards d'euros. Ce qui ferait, j'ai calculé le pourcentage, 32,8%. Alors, on peut s'étonner de l'importance de ce pourcentage. Mais il y a le fait que en France, les allocations familiales sont plafonnées. Et sous la présidence de François Hollande, il y a une loi qui a été votée par le Parlement, la loi du 15 juillet 2015, qui fait que Les allocations familiales sont divisées par deux pour les parents de deux enfants gagnant plus de 6 000 euros et par quatre pour ceux gagnant de plus de 8 000 euros. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de la population et non négligeable qui ne touche que des allocations familiales limitées, ce qui mécaniquement, en effet, élève le pourcentage des populations immigrées qui ont des revenus plus limités, c'est un fait, élève leur pourcentage dans le total des dépenses.
Ouais, il ne faut pas négliger non plus la poussée démographique extrêmement importante.
En plus.
Puisque nous avons maintenant
des taux de fécondité différenciés.
Un taux de natalité de 30 à 40%, ce qui est absolument colossal. Et en région parisienne, l'étude de la dépranocytose, qui n'est plus possible maintenant, aboutissait à 74%.
Oui, non, mais c'est ce qu'on appelle un taux de fécondité différencié, oui. Donc qui fait que... Donc c'est pour ça...
Alors, alors, les dépenses, si vous voulez, si on se lance là-dedans, nous ne finirons jamais.
Oui, non, oui. Mais
je voudrais souligner les points importants. Les points importants, c'est que j'ai fait dépense par dépense. Dépense par dépense, et certaines dépenses ont été affectées d'un coefficient d'augmentation ou parfois de diminution. Alors, ça vient d'un livre et d'études qui ont été faites par un mathématicien, un économiste, Schochnicki, les deux, enfin, il y a Schochnicki et Rago, et qui conduisent à faire les calculs tels que je les fais et les multiplier ou enlever une partie. Par exemple, pour la natalité, pour les cotisations pour la natalité, mon coefficient était multiplicateur de 2. Et cela vient des études de Schochnicki, qui reconnaissent, alors que ce ne sont pas des anti-immigrationnistes convaincus, que les immigrés, surtout les immigrés ayant comme origine l'extra-européen, ont tendance à être plus gourmands, pour employer ce terme, entre guillemets, en matière de certaines formes de dépenses. Alors, c'est vrai pour la famille, c'est vrai pour, par exemple, le logement, où mon coefficient est de 3,30, c'est vrai pour le chômage, où j'ai un coefficient de 1,6, mais ce n'est pas vrai pour les retraites, puisqu'ils ont beaucoup moins de retraites parce que beaucoup plus jeunes, et j'ai fait une réfaction de 40% quand même. C'est-à-dire que j'ai diminué le chiffre de 40%. Donc c'est beaucoup plus... C'est beaucoup moins bêtement arithmétique. Il y a l'utilisation de ratios selon la nature de la dépense. C'est donc... pour certaines dépenses, c'est extrêmement important, comme par exemple le chômage. Pour d'autres, c'est beaucoup plus. Pour la santé, c'est à peu près équivalent, par exemple. Il y a, pour les immigrés, il y a plus 10%, mais c'est important, parce que ça change les chiffres. Et il faut le justifier. Et je le justifie avec Schochnicki. Pour les autres dépenses, alors quelles sont les dépenses importantes qu'on peut souligner ? Celles que je viens de dire sont évidentes. Il y en a qu'il faut souligner, c'est tout d'abord la politique de la ville, que j'ai estimé à peu près à 8 milliards, et est un véritable désastre.
Oui, d'ailleurs,
la Cour des comptes est particulièrement sévère.
Vous soulignez d'ailleurs l'importance des chiffres par décennie. On aboutit, je crois, par rapport à ses débuts, à un chiffre total de près de 4... je vois, politique de la ville, 90 milliards... De 1989 à 2013, 20 milliards de 2014 à 2022. En fait, on aboutit à une politique sur 30 ans de 110 milliards.
Et sans aucun résultat positif, et qu'il faut renouveler tout le temps. Il faut entendre ce que dit Xavier Roffer, je crois.
Je ne me trompe pas sur son nom.
Il a étudié la chose, il a été extrêmement sévère. Et la politique de la ville est une gabegie, fait par des gabegies. La Cour des comptes est très sévère. Hein, et en plus, elle juge la gestion extrêmement floue. Et elle critique beaucoup cette gestion. Certains estiment que la politique de la ville est un investissement. Je dis non. Ça devrait l'être.
Oui, ça devrait l'être.
Mais ça ne l'est pas.
Ça ne l'est pas. Ça, il faut reconnaître, c'est un, ou c'est un investissement à fond perdu.
Alors, il y a aussi l'éducation.
Alors, ça, on va revenir sur ça.
Alors, l'éducation, c'est extrêmement important. Bon, les chiffres, bon, pour l'éducation, j'arrive au total, alors, il y a la scolarité, il y a les étrangers, enfin, les immigrés qui sont étudiants, et il y a les étudiants qui viennent de l'étranger, hein, à peu près 400 000, et qui viennent en France pour étudier parce qu'il y a des qualités d'enseignement en France. Alors, le problème est de savoir ceux qui restent, hein, puisque certains viennent.
Et quelle filière ils suivent ? Parce que, je dois dire, c'est une petite parenthèse, mais ça m'a beaucoup intéressé, c'est très important. Quand je prends les inscriptions dans l'enseignement supérieur, les étudiants, donc, pour la période 67-68, il y avait en France donc 508 000 étudiants, dont 24 410 étudiants étrangers. Et donc, pour les étudiants français, ça correspondait à des classes d'âge de l'ordre de, entre 46-49, de 843 000 à 872 000 naissances par an. En 2022, donc, vous recensez, d'après les chiffres, donc 2 935 000 étudiants, dont 412 000 étudiants étrangers.
Oui, et leur traitement n'est pas le même.
Et le traitement n'est pas le même. Mais si je prends d'ailleurs les seuls étudiants français, 2 523 000, c'est-à-dire par rapport au chiffre de 67-68, vous avez une multiplication de 5,2.
Ouais,
bon.
Ouais.
Et sur les étudiants étrangers, la question, c'est tout à fait normal de recevoir des étudiants étrangers pour le rayonnement du pays.
Il y a d'ailleurs une concurrence entre les pays.
Oui, il y a une concurrence entre les pays. Le problème, mais ça, on le développe pas, c'est les filières qui sont suivies. C'est-à-dire qu'il y a des filières qui représentent un réel intérêt, scientifique, médecine, voire juriste. Il y a des filières, sans être trop critique, qui présentent moins d'intérêt. Et le tout, c'est de savoir si, pour ces étudiants étrangers, c'est un moyen de séjourner à terme sur le territoire français ou si c'est un moyen
d'apprendre. Alors, il faut constater que, d'une part, certains de ces étudiants ne sont pas toujours suivis avec beaucoup d'attention.
Oui, donc
ça, c'est un constat qui a été fait par la plupart des auteurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il y en a pas mal qui restent en France et qui transforment une partie simplement des études pour les étrangers en filière d'immigration.
Tout à fait.
Alors, moi, j'ai pris le chiffre d'un tiers. C'était un peu le chiffre qu'avait pris Jean-Paul Gourevitch. Je pense qu'il est raisonnable, mais qu'il reste en France. Hein. Ça fait... alors, celui-là, si vous voulez, le coût de leur formation, de ce tiers, bah, fait partie de l'ensemble des dépenses.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas le cas de ceux qui repartiront. Parce que là, il y a réellement un investissement en faveur de la France. C'est ce qui fait que la distinction est difficile, parce qu'on ne sait pas au départ, on ne sait pas dès le départ ce qu'ils vont faire à la fin, s'ils restent ou s'ils s'en vont.
C'est-à-dire que, y a des filières, et que comme les universités reçoivent des dotations en fonction du nombre d'inscriptions, y a des filières que les universités attirent et pourtant qui ne débouchent pas forcément sur des emplois, je dirais, au niveau où les d'études suivies. Alors, j'ai quelques messages. Alors, j'ai deux messages concernant, on en parlera tout à l'heure, les transferts de fonds. Hein, on en parlera tout à l'heure.
Oui, tout à fait, oui.
On en parlera tout à l'heure. Je préfère lire les messages parce qu'on en a beaucoup ce soir et je remercie beaucoup les auditeurs. Sur le nombre de clandestins en France, vous avez parfaitement donné le chiffre en début d'émission. Donc
oui, alors mon chiffre est de 1 400 000. Il est
donc,
critiqué.
On est revient.
Il est critiqué, mais les chiffres, les chiffres qui sont cités par les autorités lorsqu'ils les citent sont jamais justifiés, sont jamais sourcés. Et j'ajoute une chose. Il y a eu des instructions, alors j'ai des documents du Sénat qui expliquent, parce que la réponse souvent concernant les clandestins, c'est de dire c'est impossible à compter. Or,
il y a des moyens de recoupement.
Le Sénat a mis en exergue, j'ai la page ad hoc, le Sénat a dit qu'à l'étranger, des moyens, des méthodes de calcul avaient été mis sur pied et étaient efficaces. Mais ce qui a été ajouté, c'est que aussi bien Bruxelles que les pouvoirs publics français n'ont jamais demandé à utiliser ces possibilités. En fait, il y a une volonté politique
de ne
jamais faire ces calculs. C'est extrêmement clair dans le document que j'ai, et ce n'est pas la faute de l'INSEE. Mais ce sont les pouvoirs politiques qui ne veulent pas. Je me rappelle que lorsque j'avais fait l'article sur ce chiffre de clandestins, j'avais appelé le député, ce député de Haute-Marne, qui avait été à l'initiative de cette étude. Et il m'avait dit, ne lui faisais pas dire. D'ailleurs, il me disait, c'est le flou le plus complet. Mais il me l'a répété plusieurs fois. Et je lui ai demandé s'il y avait un verbatim. Vous savez, généralement, lorsque les rapports d'Assemblée nationale, il y a un verbatim. Et c'est très intéressant parce que, souvent, les gens se lâchent, ils y sont tenus. Et là, il m'a dit, il n'y a pas de verbatim. Ce n'était pas possible, ce n'était pas vrai, ce n'était pas crédible. J'ai appelé l'Assemblée nationale. Là, ils m'ont dit, il y en a un, il ne sera ouvert au public que dans 25 ans.
Oui, parce qu'il a été décidé que le rapport ne serait pas...
Donc ça voulait bien dire qu'il y avait des choses qu'il fallait cacher.
Alors, un dernier message sur les accords d'Évian, mais comme nous l'avons dit en début d'émission, c'est un document de nature comptable, donc il n'y a aucune digression politique dans votre...
Non, sauf que les accords d'Évian, on parle de les annuler et on ne le fait pas.
Oui, ouais. Mais enfin, c'est hors du sujet de notre société.
Mais c'est un véritable sujet.
C'est un véritable sujet, mais ce n'est pas dans notre sujet de ce soir. Alors, donc, vous avez...
Je voudrais finir sur les dépenses. Il y a aussi... simplement sur les points importants.
Allez-y, je vous en prie.
C'est les prestations de protection sociale, les minima sociaux. Alors, le chiffre, là, est de 10 milliards. En fait, l'ensemble des prestations, parce qu'il y a des méthodes, il y a des calculs, et des calculs complexes, c'est un micmac, c'est un millimélo insensé, pour ne pas employer d'autres mots. Là, il y a 10 milliards, mais il y a plus. En fait, l'ensemble, parce qu'en plus, il y a les collectivités locales dedans. Donc, il faut voir que c'est un chiffre global qui fait 30 milliards, mais que, comme il y a les collectivités locales, j'ai mis à part, là, j'ai 10 milliards. Mais surtout, c'est un désordre insensé. Il y a un nombre de prestations sociales et de minima sociaux absolument hallucinant.
Autre point important... Dont la gestion doit représenter un coût non négligeable non plus. Oui. Ça emploie. Oui.
Et vous avez... ce que j'ai fait également, ce sont les collectivités locales qui sont oubliées. Il y a un chiffre important, les collectivités locales. Alors, les collectivités locales, je n'y ai pas mis l'éducation, puisque je l'étudie par ailleurs, je n'ai pas fait de doublon. La défense, il n'y a rien. Mais par contre, en prestations sociales, ils font beaucoup. Ils sont très généreux dans les collectivités locales, donc ça fait 42 milliards. Et puis, il y a un autre problème qui a été soulevé par l'Observatoire et qui avait critiqué une étude en disant, écoutez, vous ne tenez pas compte des coûts étatiques. Alors, les coûts étatiques, que prendre dans les coûts étatiques ?
Alors, qu'est-ce que vous appelez coûts étatiques ?
Est-ce que la défense est une dépense qui devrait être prise en compte par les immigrés ? Est-ce que... Alors, moi, j'ai fait des distinctions. Alors,
Non, mais vous avez raison de poser le problème, mais ça devient très... très spécieux parce que vous
ça devient
pas, si vous il y a pas différencier de... l'impôt.
Alors, il y a parmi si on fait l'inventaire de toutes les dépenses étatiques, vous avez le budget, etc. Vous avez celles qui ont déjà été prises en compte. Vous en avez qui n'ont aucun intérêt pour les immigrés. Par exemple, l'électrification des campagnes, c'était un sujet. Vous en avez qui sont intéressantes, mais de loin et de manière très indirecte pour les immigrés, mais il y en a d'autres que j'ai intégrés.
Oui, parce que la défense, je dirais, c'est par nature un bien collectif indivisible. Et
est-ce qu'ils en profitent ou pas ?
Voilà. S'ils en profitent ou pas, si le territoire national était attaqué, Mais de toute manière, vous ne pouvez pas différencier. C'est le type même de bien collectif indivisible. Bon, il s'avère que les personnes qui sont sur le territoire français et qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, ils contribuent à l'effort de défense, un point c'est tout.
Oui.
On va pas leur dire, parce que vous êtes d'origine immigrée, on vous défalque, bon.
Alors, qu'est-ce que j'avais choisi? J'ai choisi, si je le retrouve bien, j'ai choisi, il y avait un plan, alors, l'écologie du développement et de la mobilité, oui, mais en fait, ce que cela recouvre, c'est souvent des dépenses importantes en matière de transport. Or, le développement de l'immigration joue sur les transports, sur les routes et sur les transports, aussi bien qu'ils soient urbains qu'interurbains.
Et par exemple, je pense à une chose, c'est très intéressant ce que vous dites. Les immigrés en situation irrégulière, s'agissant de l'Île-de-France, je crois qu'au niveau de leur, du coût de leur transport, ils bénéficient de...
C'est la présidente qui leur a accordé
un petit quelque chose.
Mais ça, je l'ai mis dans l'accueil.
D'accord. Alors...
Alors, il y a l'écologie du développement, il y avait un plan de relance, il y a la culture, l'économie, les investissements d'avenir. Et j'ai mis dans mes coûts, dans mes dépenses, ces dépenses-là. Mais il faut voir que... un auteur, lui, il avait pris tout le budget. Il avait considéré qu'il fallait considérer que tout le budget faisait partie des dépenses attribuables aux immigrés.
Oui, mais...
Et c'est beaucoup trop.
Oui, c'est beaucoup trop parce que votre... justement, l'objet de votre analyse...
C'est Gérard Pince qui l'avait fait.
Oui,
comme ça.
L'objet de votre analyse, c'est de dire, voilà, par rapport aux différents types de dépenses, et de recettes, d'ailleurs, Alors, au niveau des recettes, si vous prenez la TVA, ça, c'est des... ou l'impôt sur le revenu, ce sont des pourcentages. Au niveau des dépenses, il y a des types de dépenses où l'immigration, quand même, pèse de manière substantielle. Bon, on ne peut pas dire que la culture, à la limite, vous êtes immigré, je ne sais pas, vous allez voir un spectacle...
Mais dans la culture, vous avez les cultes.
Oui, vous avez les cultes. Oui, mais enfin ça, bon. Donc là, non, mais je crois que vous avez pris la bonne position parce que déjà, c'est très détaillé. Il y a un moment donné. Alors, l'heure avance.
Simplement pour en finir avec toute cette partie qui est les recettes et les dépenses sociales, je finalise avec le chiffre. Les dépenses, ça fait 200 milliards. Et les contributions et impôts face le net fait 121 est un déficit de 121 milliards. Voilà. Alors voilà pour cette partie. Et après, on change complètement, si vous voulez, de partie. Il s'agit des dépenses non sociales.
Alors par exemple, l'accueil, tout
l'accueil.
Ça. Alors, l'accueil, les mineurs non accompagnés, les...
Alors, on peut parler de l'accueil parce que l'accueil est particulièrement... Alors, si vous me laissez le temps de trouver mon dossier, l'accueil est particulièrement intéressant.
Alors, André, devant le micro, malheureusement...
Oui, pardon. Je parle devant le micro. L'accueil est particulièrement intéressant parce qu'il y a des cas très sensibles. Le premier, c'est l'accueil pour les titres de séjour pour soins. Donc, vous savez que, ou vous ne savez pas, qu'il est possible à des étrangers, dans leur pays, s'ils sont atteints de pathologies graves, et si dans leur pays, il n'y a pas les moyens de les soigner, de venir en France. On n'arrive pas à savoir le nombre. Jean-Paul Gourevitch a situé à donner 40 000. Moi, j'ai pris 25 000 par prudence. J'ai souvent pris des chiffres par prudence. Et j'ai attribué un chiffre qui est sorti. Alors, il y a eu un document qui donne le coût en ce qui concerne les accidents de voiture pour les morts, pour les décès, pour les blessés graves et pour les blessés légers. Pour les blessés graves, c'est 474 000 euros. C'est ce que j'ai choisi pour ces gens-là qui ont une pathologie grave. Et j'arrive à peu près à un chiffre pour les 25 000 qui sont présents en France. J'arrive à un chiffre qui est autour de 11 milliards. C'est un chiffre important concernant l'accueil. Mais c'est les critiques de l'Esqui sur ce point-là sont évidemment très 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 sévères. Si j'arrive à les retrouver, je vais les lire. Je vais en lire une partie très rapidement. Nous sommes, dit Didier Lesqui, directeur de l'OFI, nous sommes avec la Belgique, l'un des rares pays au monde délivrant des titres de long séjour pour soins à tous ceux qui font valoir qu'ils ne peuvent accéder effectivement à un soin dans leur pays, même si le médicament existe. Et Lesqui dit 30 000 étrangers malades. Moi, j'ai retenu 25 000. Bénéficient aussi d'un titre de séjour qui est renouvelé tant que les soins demeurent nécessaires. C'est une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les résidents, c'est-à-dire à 100% en cas d'absence de revenus insuffisants. 100%. Ces malades viennent d'abord du Maghreb et d'Afrique, mais en bénéficient aussi les Américains ou des Suisses quand ils sont frontaliers. Vous vous rendez compte de la situation, de cette situation, de ce que nous payons pour des gens qui sont étrangers et...
Sachant que les États-Unis, c'est le tiers-monde, comme chacun sait.
C'est en train de le devenir. Enfin,
non, mais ce que je veux dire par
leurs
là...
Leurs dirigeants font tout pour ça.
Ce que je veux dire par là, c'est que...
L'un des problèmes aux États-Unis, ce sont les soins.
Absolument, le coût des soins, tout à fait.
Et comme le coût des soins est tel et qu'ils ont mal,
oui.
Eh bien, c'est la crise des opioïdes.
Oui, non, mais tout à fait. Hein. Non, mais
que nous n'avons pas.
Oui. Non, mais je veux dire qu'on a un système... qui est en France, heureusement, qui est très généreux. Hein, faut dire ce qu'il est.
Très.
Très généreux.
Personnellement.
Mais, bon, humainement, il est normal qu'on puisse soigner des gens.
Tout à fait.
J'en profite, je remercie beaucoup les éditeurs, nous avons beaucoup de messages. Je lis « Bonsoir, un émigré qui a une retraite de 1200 par mois repart dans son pays d'origine ou pas ?» Ça, oui, c'est son choix. Hein. Le problème que nous avons en la matière, c'est l'âge parfois canonique de ces retraités.
Alors, je suis concerné, puisque j'habite le Portugal et que je suis retraité. Chaque année, je dois faire signer par la mairie de l'endroit où j'habite, et là, je l'ai fait en France, puisque s'il y a une pièce... je dois faire signer par la mairie où j'habite un certificat de vie, autant dit que j'existe. Mais en Algérie, au Maghreb, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on signe ce que l'on veut.
Oui, donc on sait que... Bon, mais ça, c'est un problème...
Et c'est pour ça que nous payons des retraites à des gens qui ont 140 ans.
Oui, c'est ça. Donc,
alors, il y a un début de débauche, de commencement, de réaction. Je ne suis pas certain qu'on aille très loin là-dessus. Mais, bon, c'est absolument scandaleux. Hein, c'est vrai.
Et puis alors, bon... Il y a une autre question. Bonsoir, combien d'immigrés sont devenus propriétaires en rentrant au pays d'origine? Tout ça, ça rejoint ça le problème des transferts de fonds dont vous allez parler. Ouais.
Hein. Il faut parler des transferts de fonds.
Ah, alors, ouais. Oui, justement, parce qu'il nous reste un quart d'heure.
Hein. Oui, alors, dans l'accueil, il y a aussi l'aide médicale d'État, qui est dont le chiffre est toujours cité de 1 milliard. Alors, je voudrais dire le nom de la députée, Madame Lauvergie, elle est LR, hein, et qui est expert comptable, et qui a tout pointé. Et elle arrive, elle, à un chiffre qui avoisine les 2 milliards. Et elle a pointé comme fait un comptable.
C'est une parlementaire. Hein.
Voilà. Mais elle n'y arrive pas à pointer les titres de séjour pour soins. Elle n'y arrive pas. Mon calcul à moi, il est fait en multipliant un montant de 474 000 par un certain nombre de personnes, 25 000. Bon, mais elle pointe. Et ce travail extraordinaire, elle n'arrive pas à le faire.
Parce que c'est important ce que vous dites, parce qu'il faut distinguer l'aide médicale d'État du titre de séjour pour soins.
Totalement différent.
Hein. C'est pas des choses qui se confondent, mais qui sont des choses qui s'ajoutent, puisque l'aide médicale d'État, c'est pour les étrangers en situation irrégulière,
alors que les autres ont un titre de séjour.
Absolument.
Et alors, vous avez également les MIE-MNA, c'est-à-dire les mineurs non accompagnés. Alors, les mineurs non accompagnés, on peut en parler longtemps. Ils sont très nombreux à arriver, les chiffres sont en augmentation. Hein. Et alors, une partie d'entre eux, parce qu'aussi, il y en a qui sont majeurs, des mineurs. Hein.
Oui, une
partie d'entre eux est prise en charge par l'ASE, c'est-à-dire assistance sociale pour les enfants, qui relève des départements, qui sont complètement débordés financièrement. Il y en a, dans les chiffres que j'ai, il y en a 42 000. Et tout le monde a toujours dit que le coût annuel était de 50 000 euros. 50 000 euros par MIE-MNA. Dans mes recherches, l'adresse dit simplement 38 000. Personnellement, je suis sceptique.
Ben oui, parce que ça fait 4 000 euros par mois, grosso modo, 50 000, avec les frais d'hébergement, de nourriture, d'encadrement. Alors évidemment, 4 000, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, il y a toute l'infrastructure qui...
Ah, écoutez, 36 000 euros, vous divisez par 12 mois, ça fait 3 000 euros par mois. C'est ce que touche un MIE-MNA qui a été amené là par, par une association qui n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. C'est le salaire d'un cadre moyen.
Hein. Oui.
Et alors qu'il y a des Français qui n'ont rien, cette distribution d'argent est absolument scandaleuse.
Alors, il faut penser que ce n'est pas de l'argent que l'on donne aux mineurs non accompagnés, mais c'est toute la structure d'accueil, c'est-à-dire nourriture, logement, encadrement. Absolument. Et en effet, vous vous rendez compte que tout ça, ça grimpe vite, parce que quand il faut loger, c'est-à-dire entretenir le bâtiment, nourrir, encadrer avec toute la structure administrative qui est autour.
Et les MIE-MNA qui n'ont pas été pris pour une raison ou une autre par les ASE, ben ils deviennent des clandestins. Ils disparaissent dans la nature. Alors, vous avez aussi la scolarisation des jeunes qui arrivent. Hein. Il était difficile d'avoir un chiffre. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça a été réformé et une parlementaire s'en est occupée et elle a chiffré ce coût de la scolarisation pour un total de 2,5 milliards. L'hébergement. Alors, l'hébergement... les critiques de Didier Lesquy sont très graves parce que c'est un désordre complet. Il devrait accueillir ceux qui ont demandé l'asile et les clandestins. En fait, les clandestins vont là où il devrait y avoir les gens qui ont demandé l'asile et vice-versa. C'est un désordre complet. Et les chiffres varient entre 1 à 3 millions, à 3 milliards. Donc, j'ai retenu 2 milliards. Et je n'en suis pas plus sûr que ça. Les chiffres varient complètement. Autre élément, les associations. Ce que dit Didier Lesquy sur les associations, je l'ai là, mais on n'a peut-être pas le temps, c'est extrêmement dur. Hein. Il dit, nous sommes en train de payer justement des associations dont le but est justement que le système d'accueil et de renvoi des clandestins ne marche pas.
Oui, alors ça, c'est vrai que vous avez tout à fait raison d'insister sur le sujet. C'est une mission de service public et il n'y avait aucune raison que l'État ne l'assume pas. Or, il a délégué à des associations qui sont, sans être critique, des associations engagées et qui, vont au-delà de la stricte mission qui, normalement, leur est confiée.
Ce qu'il dit, nous subventionnons ainsi une activité dont le but avoué est d'éviter que la reconduite puisse être menée à son terme.
Oui, donc
C'est ce que nous payons avec nos impôts.
Ça, vous avez tout à fait raison de le souligner. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à le souligner.
Alors j'ai retenu un chiffre, le chiffre de la réponse de la ministre qui disait « ça coûte... 750 000 euros. En fait, ça coûte plus. Et d'ailleurs, Jean-Paul Gourevitch avait augmenté son chiffre parce que ça...
Le 750 000 euros, ça correspond à...
À un petit million.
Oui, d'accord, pour les associations.
Pour les associations. Le chiffre est en fait beaucoup plus élevé.
Oh oui, ça
j'ai pris le chiffre officiel, mais en fait, il est beaucoup plus élevé.
Je remercie les auditeurs. Stéphane mène les messages. Nous recevons une pluie de messages. Alors, bon, il y a des messages, si vous voulez, qui me correspondent, dont je remercie les auditeurs, mais que nous n'allons pas développer, ça ne correspond pas au sujet. De même que le problème de il suffit de résider 10 ans en France pour toucher sa retraite à 64 ans. Là, je ne suis pas... Parlons de l'économie informelle et de tout ce qui touche à l'ordre public, si j'ose dire.
Écoutez...
Je pourrais m'excuser. De toute façon, vous avez le livre, mais comme notre...
D'accord. Alors, sachez... Notre... Alors, il y a une chose. J'ai fait un calcul assez compliqué sur la base du SSMSI, qui est un organisme qui dépend du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, sur les, ce qu'on appelle les CBV, les coups et blessures volontaires. Donc les coups et blessures volontaires, 14% des coups et blessures volontaires, ce sont des étrangers. Des étrangers.
À l'origine
de... À l'origine et extra-européens. Parce qu'il y a aussi des Européens.
Oui. Bon.
Ceci étant, j'aimerais bien voir leur tête. J'ai fait une extension. C'est-à-dire que j'ai tenu compte aussi qu'il y avait des immigrés, nés français, qui s'ajoutaient à cela. Donc, j'arrive, donc j'ai fait ce calcul, et j'ai tenu compte, là aussi, du chiffre de 474 000 des accidents d'automobile, qui est un coût, si vous voulez, pour ce qui est grave. Rappelez-vous la malheureuse qui avait été violée avec un bâton de chaise à Strasbourg. Le coût médical a dû être
très élevé.
Très élevé. Bon. Donc, c'est comme ça. Et c'est là que j'arrive à un chiffre qui fait... alors, je ne l'ai pas sous les yeux, le chiffre qui fait... je ne l'ai pas sous les yeux.
Vous allez pour nous permettre de
parler des chiffres. Il fait à peu près 30 milliards.
Bon, il y a le. Je vous prononçais parce que l'heure avant, il y a l'économie informelle. Parce
alors,
que
l'économie informelle, c'est extrêmement important. L'économie informelle, c'est l'économie rose, c'est-à-dire l'économie simplement de personne à personne, je t'aide ou je fais quelque chose chez toi, c'est gratuit. Vous avez une autre économie qui est plus criminelle. Enfin, il y en a. Alors, attendez, il y en a trois. Et puis il y a surtout celle qui consiste à ne pas déclarer la fraude aux prestations.
Donc, en fait,
ça en fait quatre catégories. Cette fraude, alors vous avez là-dedans aussi tout ce qui est criminel, tout ce qui est trafic d'armes, trafic d'êtres humains, trafic de drogue. C'est le spécialiste de cette affaire, qui écrit des livres dessus, c'est Jean-Paul Gourevitch, et il dit bien que l'origine de cela, l'origine de ce phénomène se trouve en Afrique. Il s'est beaucoup développé en Europe, y compris des choses qui ne relèvent que partiellement des extra-européens, la fraude aux prestations. Pas la fraude aux prestations, la fraude aux cotisations. Il estimait à 17% le pourcentage du PIB qui était touché par cette économie informelle. Il l'a poussé dans des livres à postérieur à 20%. J'ai gardé les 17% par prudence. On arrive à quelque chose comme un chiffre de 450 milliards. Ces 450 milliards, 17% du PIB, à l'époque,
oui.
Ces 450 milliards ne payent rien. Or, vous avez des impôts divers et variés, notamment l'impôt ou la TVA. J'ai fait le calcul de l'impôt sur la TVA. Je vous passe les détails du calcul, hein. Et j'arrive à 50 milliards qui échappent. Et vous avez d'autres impôts. Et ces impôts, la France n'en voit pas la couleur. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis dans l'addition? Parce que d'abord, il y a des natifs qui jouent à cela. Parce qu'il y a les Européens, des immigrés européens, qu'on n'arrive pas à les distinguer. C'est trop flou. Il faut savoir que ça existe, que ça coûte cher, et que ça permet de développer de véritables centres économiques étrangers de provenance de l'immigration en France, par exemple PACA. Et qu'un jour, on peut assister, c'est ce que je dis dans le livre, à une partition économique. C'est-à-dire que vous n'avez plus dans une partie de la France ou dans certaines villes, après tout, c'est un peu le cas de Marseille ou de 93 hein, ou de Seine-Saint-Denis, vous n'avez plus que des activités qui dépendent des immigrés, en particulier des immigrés non européens. C'est un problème extrêmement grave qui est non connu et dont on ne parle jamais et qui coûte très cher et qui est très dangereux.
Alors, dernier point, parce que malheureusement, vous voyez, le temps a passé très vite. et nous avons eu plusieurs questions d'auditeurs sur le sujet, les transferts de fonds qui touchent la balance des paiements.
Alors, là, les transferts...
de fonds, alors vous avez fait une analyse sur le sujet, hein, sur les transferts de fonds.
Laissez-moi la trouver, je vais la trouver.
Alors, vous avez... vous l'évaluez, je crois, aux environs de...
Alors, les transferts de fonds, j'ai pris ce que disait le rapport annuel de la balance des paiements de la position actuarielle extérieure, 12,8 milliards. Mais Pierre Brochand avait dit que c'était le double. Patrick Stefanini, dans son ouvrage sur l'immigration, a souligné combien ces mouvements financiers étaient importants et combien ils étaient aussi importants pour les pays qui les recevaient. Par exemple, au Maroc, à l'époque, les transferts étaient plus importants que les investissements étrangers.
Alors un chiffre, parce que là, nous arrivons...
Moi, j'ai pris 13 milliards, mais c'est peut-être insuffisant.
Oui. Enfin, c'est tout à fait dans la norme. Alors, il faut dire donc que ça affecte la balance
ça
des paiements.
Ça affecte lourdement la balance des paiements.
Et ça affecte indirectement ou directement, puisque c'est des arbitrages au niveau de celui qui perçoit un revenu, ça affecte le taux d'épargne. Et la consommation.
Voilà. Puisqu'il reste une minute, je voudrais arriver à la conclusion.
Rapidement, parce que moi...
Ça va être rapide, ça va être un chiffre. Le total de tout ce que j'ai fait, hein, de toute cette espèce de compte, de compte de résultats,
oui.
Hein, des dépenses et des recettes, arrive à 250 milliards.
Alors, c'est un chiffre, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est... discutable, bien entendu.
Très discutable.
Mais
discutable veut dire peut-être discuté.
Exactement, parce qu'en fait, ça s'appuie sur vraiment une analyse très détaillée. Mmh. On peut modifier les postes, discuter sur les postes. Hein. Donc, je veux dire que c'est une analyse extrêmement riche. Donc, en effet, on peut toujours contester les chiffres, mais l'avantage, c'est que la rigueur du travail comptable est assez exceptionnelle. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à mon invité, donc André Posokov, dont vous pouvez vous procurer le livre sur le site Book Edition, au nom de, vous cherchez, André Posokov. Hein. Alors, ce libre journal sera rediffusé samedi 11 avril à 15h30 et dimanche 12 avril à 21h30. D'ici là, vous pourrez le réécouter sur le site de la radio et le télécharger si vous êtes un donateur à la radio et donc membre de l'association. Donc, chers auditeurs, je remercie Stéphane d'avoir réalisé l'émission. Je remercie André Posokov d'avoir été mon invité. Et je vous retrouverai...
C'était un plaisir, Michel.
Mais c'est un plaisir pour moi. Et je vous retrouverai, chers auditeurs, jeudi 7 mai prochain, où je recevrai Roland Lombardi, et là, sur un autre sujet, la situation au Proche et Moyen-Orient. Bonsoir, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Souveraineté, dirigé par Michel Leblay, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 9 avril 2026, de 21h30 à 23h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.